Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 21 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. Comme d'habitude, c'est Sébastien Arbogast qui vous parle, mais cette fois-ci en direct de Koh Lanta en Thaïlande. Voilà, on n'arrête pas de bouger. Cette semaine, on a un petit peu foiré la synchronisation avec mon ami Plume, mais pour autant, il nous a enregistré son édito, donc on aura droit quand même à l'édito de Plume, même s'il ne sera pas avec moi en live pendant cet enregistrement. En léger différé du studio, on enregistre pour qu'on puisse interagir. Donc, ça va être un petit peu moins interactif que d'habitude, mais je suis sûr que vous nous pardonnerez. Et donc, après l'édito de Plume, on n'aura pas de courrier des auditeurs cette semaine, pas eu de questions. Au passage, je vous rappelle, bien sûr, si vous avez des questions, des demandes de précision, d'explications plus détaillées, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog post de l'émission ou sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et tout ça, vous connaissez la musique. Et si vous la connaissez pas, il suffit d'aller sur proofofcast.com pour avoir tous les détails. Dans l'actualité cette semaine, on va parler de Quadriga CX, la saga qui a défrayé la chronique ces deux dernières semaines. On va parler de Lightning Torch, de la bombe de difficulté d'Ethereum. On va parler des malwares qui cherchent à vous piquer vos cryptos sous-sous. Et puis du retour de Carrefour, l'infâme et sa fausse blockchain. Mais donc, avant ça, effectivement, on va écouter l'édito que nous avait préparé Plume pour cet épisode.
Chers crypto-auditeurs de tout sexe et de tout genre, bienvenue dans Proof of Cast, le podcast de la crypto en boîte, en bloc, en cube. Tous les matins, nous descendons 4 à 4 les escaliers du bloc d'appartement. Nous faisons à pied le tour du bloc, histoire de retrouver notre boîte de métal et plastique à moteur après avoir avalé en vitesse une tasse de café en boîte. Après 15, 30, voire 45 minutes, où nos blocs à roulettes sont à la chaîne sur une autoroute de l'information, tandis que nous mettons la radio sur la chaîne des informations, nous arrivons enfin au premier bloc en préfabriqué. Il est bleu et rouge. Un lapin rose orne la porte. C'est la crèche où nous pouvons déposer notre enfant. Son premier cube pour apprendre à jouer au cube. Sa première boîte, à quelques blocs à peine de la mienne. Mais à peine le temps d'un bisou, nous devons sauter sur notre volant pour aller garer la boîte en métal dans son bloc ou dans son box. Nous arrivons dans le bâtiment. Notre boîte occupe le deuxième étage. Nous entrons dans le cube ascenseur. Nous montons, nous faisons quelques pas pour trouver notre cube grisâtre sur lequel se trouve la boîte en métal, en silicium, en écran et en clavier. Mais aujourd'hui, on fête le lancement d'un nouveau produit. L'équipe marketing a apporté un cubit de vin. Gérard, de la compta, comme toujours gonflé à bloc, a installé une app qui compte les jours qui lui restent avant sa pension, avant sa sortie de la boîte. Gérard, il a beau être fort comme un chêne, il glande, enchaîné à sa boîte. Alors, nous quittons notre boîte. Nous prenons le large. Nous rejoignons une start-up. Une start-up, c'est une petite boîte. On est moins bien payé, mais les cubes sont colorés. Les boîtiers d'ordinateurs sont plus modernes. Les murs sont décorés. Il y a même un baby-foot. C'est cool, même si personne ne peut l'utiliser car ça ferait trop de bruit. Dans la salle de réunion, il y a des blocs, les mêmes que ceux de la crèche. C'est pour notre créativité, pour qu'on soit toujours à bloc, dit le CEO. Nous avons envie de sortir du moule, de nous éclater. Une migraine se fait sentir. Est-ce que nous incuberions quelque chose? Oh, tant pis. Le jeudi soir, nous sortons en boîte. Sortir en boîte. Curieuse expression pour exprimer le fait de rentrer dans un gigantesque cube surpeuplé où les corps se frottent, où les sueurs se mêlent à la stridence des haut-parleurs et à l'épileptique saccade des projecteurs colorés. Mais chouette boîte quand même. On reviendra. Avec notre conjoint, nous avons un rêve. Celui de troquer notre appartement dans un bloc contre un petit cube encadré de 2 mètres de pelouse de chaque côté. Le trajet en bloc moteur serait plus long. Et il faudrait passer plus de temps dans notre boîte pour payer notre cube 4 façades. On ne devrait plus aller au resto, mais plutôt prendre de la soupe en boîte. Ou la faire nous-mêmes, avec un cube de bouillon. Cela en vaut la peine. Ou en tout cas, ça a l'air. Car tout le monde fait le même rêve. Du rêve en boîte. Nous avons quand même de la chance. Notre grand-père, lui, travaillait la chaîne. Notre père travaillait dans un cube gris, pour une grosse boîte. Nous, nous travaillons tous les deux, et dans un cube coloré. Mais dans une boîte à taille humaine, ce sont les ressources humaines qui ont insisté. D'accord, nous nous sommes payés moins, mais au moins, la boîte est à taille humaine. Le salaire ne doit pas être un blocage. Une blague nous vient à l'esprit. Et si la seule boîte à taille vraiment humaine, c'était un cercueil? Mais ce n'est pas sûr que ça ferait rire ceux de la boîte. Soupir. Où sont nos rêves? Qu'est-ce qui nous bloque? Envie de tout plaquer, de briser nos chaînes. Envie de faire des choses excitantes, comme par exemple, travailler sur cette nouvelle technologie incroyable. Elle s'appelle la blockchain.
Ah ben, il m'avait prévenu qu'il ferait de la poésie cette semaine, mais effectivement, il s'est lâché. Alors là, pour le côté réflexion philosophique et métaphysique sur la nature de votre existence et de votre motivation, je vous laisse là, vu que ça, non, on va tout de suite enchaîner sur l'actualité du coup. Donc, comme je vous le disais dans le sommaire de l'émission, on va commencer par parler de cette saga qui a animé à la fois la presse spécialisée et la presse généraliste ces dernières semaines. J'ai nommé Quadriga CX. Alors, si vous viviez dans une grotte, que vous avez dormi à la belle étoile ces dernières semaines, vous n'en aurez peut-être pas entendu parler, mais sinon, on vous aura rebattu les oreilles à moultes occasions à propos de cette place de marché canadienne, donc, qui aurait soi-disant perdu l'accès à 190 millions de dollars suite à la mort subite de son fondateur. Alors évidemment, pour la presse généraliste, c'est une autre démonstration de l'absurdité et finalement du faible niveau de sécurité relatif des crypto-monnaies, hein, puisqu'il suffit qu'une seule personne meure pour qu'on perde une énorme somme d'argent comme celle-là. Pour les spécialistes et pour la presse spécialisée dans son ensemble, l'histoire paraît complètement invraisemblable, tant il serait complètement absurde de conserver des wallets à froid pour une telle somme en crypto-monnaie dans des wallets justement à signature unique. Hein. Vous vous souvenez, quand on stocke de la crypto-monnaie dans un wallet, la manière la plus simple et pour des faibles montants, c'est avec des wallets ce qu'on appelle à signature unique, c'est-à-dire une seule personne est nécessaire pour faire nécessaire et suffisante d'ailleurs pour faire des transferts. Maintenant, quand on travaille avec des grosses sommes d'argent et notamment dans des organisations, on stocke généralement ça dans des wallets à signature multiple, c'est-à-dire que par exemple on enregistre 5 détenteurs du wallet et il suffit de la signature de 3 pour autoriser un transfert. C'est ce qui se fait aussi beaucoup dans des comptes en banque de société d'une manière générale, et on a reproduit ça dans des wallets. Et là ici on voudrait nous faire croire que il y avait plus de 100 millions de dollars de fonds en crypto-monnaie qui étaient détenus dans des wallets à signature unique, dont le fondateur, malheureusement décédé, était a priori le seul détenteur. Alors en plus, ce qui soulève un petit peu des doutes et des questions, c'est que cette place de marché, elle n'était pas exactement en train de naviguer sur un long fleuve tranquille. Hein, elle avait déjà une histoire houleuse. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle rencontrait des soucis et qu'elle posait des questions à ses clients d'une manière générale. Donc, ce que je vous invite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va passer en revue les différents épisodes de cette saga et essayer d'analyser pour aller un peu plus loin que justement l'histoire simpliste qui est racontée par les médias généralistes. Alors, d'abord, un petit rappel des faits. Ça, comme je disais, ça faisait déjà plusieurs mois que les clients de Quadriga CX se plaignaient de problèmes de retrait et d'un manque de communication de la part de la plateforme. Certains de ces problèmes de retrait, notamment pour tout ce qui était retrait en fiat, donc en monnaie classique, dollar et autres, enfin surtout dollar canadien en l'occurrence, étaient dus visiblement à des relations conflictuelles entre Quadriga CX et certaines institutions bancaires, notamment celles qui étaient censées détenir son compte en banque, qui refusaient de traiter certaines demandes de virement et qui allaient, enfin une de ces institutions avait même été jusqu'à geler les fonds de la société, ce qui avait déclenché un procès que Quadriga CX d'ailleurs avait gagné, mais qui était toujours pas complètement réglé, et donc il y avait beaucoup de fonds en monnaie fiat qui étaient déjà un petit peu bloqués, et ce qui ralentissait les retraits des clients. Maintenant, depuis quelques temps, les retraits en crypto étaient aussi affectés par ces retards, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Et finalement, ce qui s'est avéré, là, ce qui a été annoncé courant janvier, c'est que le patron et fondateur de Quadriga CX, qui s'appelait Gerald Cotton, serait décédé le 9 décembre 2018 à Jaipur, en Inde, d'après un certificat de décès qui a depuis été fourni par le gouvernement du Rajasthan. Donc, a priori, quelque chose d'officiel et de fiable. Maintenant, la mort aurait eu lieu, les déclarations qui ont été faites après, la mort aurait eu lieu suite à des complications liées à la maladie de Crohn. Maintenant, pour autant, le certificat de décès lui-même ne mentionne aucune cause du décès. Donc là-dessus, on n'a pas vraiment d'informations officielles, si ce n'est les déclarations qui ont été faites par l'hôpital dans lequel il a été admis la veille de son décès, pour effectivement un choc septique. Et donc il a fait plusieurs arrêts cardiaques jusqu'au dernier qu'il a amené à son décès, en tout cas c'est ce qui a été avancé. Donc comme je disais, il a été admis dans un hôpital privé le 8 décembre, et puis il a fait en état de choc septique, et il a fait un arrêt cardiaque le 9 décembre. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que sa veuve, donc qui s'appelle Jennifer Robertson, aurait en janvier seulement, donc pratiquement un mois plus tard, enfin exactement un mois plus tard, entamé des procédures légales pour demander à un tribunal de la Nouvelle-Écosse au Canada. Donc vous savez, le Canada, ça fonctionne avec des provinces, un peu comme les États aux États-Unis, mais là c'est la province de la Nouvelle-Écosse, enfin une juridiction de la Nouvelle-Écosse qui a été consultée pour déposer en fait une demande pour que la société soit maintenue en vie pendant quelques temps et surtout soit protégée de tout procès intenté éventuellement par les clients de la société, de manière à laisser à la société le temps de se retourner et de voir ce qui se passait et de prendre les mesures nécessaires pour retrouver les fonds. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'avance encore une fois Jennifer Robertson, c'est que les clés privées nécessaires pour pouvoir accéder aux fonds, notamment en crypto-monnaie détenue par la société, ne seraient stockées que sur le laptop du défunt fondateur, qui est chiffré et dont personne n'a a priori la clé. Donc personne dans la société n'a accès à ces comptes de stockage dit à froid, c'est-à-dire des wallets déconnectés qui ne sont pas en ligne, mais toutes les informations auraient été stockées uniquement dans ce laptop auquel la veuve n'a pas accès et personne dans la société n'a accès. Donc là, vous commencez à sentir, si vous êtes un petit peu habitué à cet univers, vous commencez à vous aussi avoir des doutes qui pointent, avoir des petits drapeaux rouges qui se lèvent, parce que quand on gère effectivement des actifs pour 190 millions de dollars, on va pas aller mettre ça dans les mains d'une seule personne qui peut se prendre un bus à tout moment. On parle même pas de maladie prévisible ou quoi. On parle juste d'un accident de la vie qui peuvent mettre en danger comme ça les fonds de quelqu'un. Donc c'est très très étrange qu'aucune mesure plus sécurisée de stockage n'ait été prise en amont. J'en reviens au rappel des faits. Donc, les échanges ont été stoppés sur la plateforme depuis le 26 janvier. Et donc, le 31 janvier, la société a déposé cette requête au tribunal pour tenter d'éviter la banqueroute, clairement, et se protéger de ses créditeurs en attendant un règlement de ses affaires. Dans ce dossier, dans cette demande, dans cette requête qui a été introduite, on trouve plusieurs informations, dont le fait que la société doit environ 250 millions de dollars canadiens à ses 115 000 clients, ce qui correspond effectivement à environ 190 millions de dollars américains. Je vous rappelle que les dollars canadiens et les dollars américains, c'est pas la même chose. Et sur ces 250 millions de dollars canadiens, il y a à peu près 180 millions qui sont en crypto et donc 70 millions en fiat qui sont bloqués a priori chez des processeurs de paiement, c'est-à-dire des intermédiaires de paiement en contrat avec Quadriga CX, mais qui pour l'instant ne trouvent pas de banque qui accepte de faire passer ces paiements en gros, puisque la société Quadriga CX a toujours pas vraiment de compte en banque officiel et libéré, on va dire. Alors, pour ce qui est des fonds en crypto, a priori, ils sont détenus en Bitcoin Cash, en Bitcoin Cash SV, en Bitcoin Gold, en Litecoin et en Ether. Ça, a priori, c'est ce qui a été établi dans la requête. La plus grande partie serait, a priori, en cold wallet, c'est-à-dire donc, encore une fois, des wallets déconnectés qui ne sont pas en ligne, et une petite partie en hot wallet, une clé qui devrait être disponible et à laquelle on devrait, auquel on devrait pouvoir accéder. Maintenant, Robertson a donc demandé à ce que la société puisse continuer à fonctionner sous la supervision indépendante du cabinet Ernst & Young, qui devrait être donc une espèce de tuteur de la société pour trouver des solutions et essayer de récupérer un maximum de fonds, que ce soit en fiat ou en crypto-monnaie. Et une des solutions envisagées par Quadriga, c'est notamment la revente de leur plateforme opérationnelle, donc toute leur plateforme logicielle en gros, ce qui intéresse déjà plusieurs acteurs. Alors maintenant, est-ce que ça suffira ? C'est assez peu probable, mais toujours est-il que ça peut représenter un montant important. Le 5 février, la requête de Quadriga CX a été accordée, donc par un juge de la Nouvelle-Écosse, et donc a autorisé la société à fonctionner protégée de ses créditeurs pendant 30 jours. Et pendant ces 30 jours, aucun client de Quadriga ne peut donc porter plainte pour exiger de récupérer ses fonds. Ça, c'est dans le cadre de la loi, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est dans le cadre de la loi telle qu'elle est prévue, en tout cas en Nouvelle-Écosse et pour une grande partie au Canada. Alors, évidemment, il y a plusieurs questions qui ont été posées après cette procédure. D'abord, vous le savez, hein, tout sur les blockchains, le principe, c'est qu'on peut tout voir. On peut voir les soldes des comptes et on peut aussi voir l'historique des transactions avec ces comptes, qui impliquent ces comptes. Et donc, pourquoi les adresses des wallets soi-disant bloquées n'ont pas été divulguées? Ça poserait absolument aucun risque de sécurité. Et en même temps, ça permettrait de vérifier les soldes exacts et l'historique des mouvements récents pour voir si, notamment, effectivement, les fonds ont été bloqués. Parce que si il y a des mouvements de fonds qui se sont produits sur ces comptes après la mort de Gerald Cotton, ça va être compliqué à justifier le fait qu'on a perdu l'accès au compte parce que le monsieur n'est plus là. Donc ça aurait été intéressant en termes de transparence de révéler ces comptes-là. Ça a toujours pas été fait. Il y a eu des analyses qui ont été faites, on en reparlera, pour essayer de retrouver ces comptes. Mais pour l'instant, ils n'ont pas été révélés. Alors, l'excuse qui a été avancée par la femme de Gerald Cotton, c'est de dire, tout est stocké sur son laptop, j'ai même pas accès aux adresses des comptes. Mais pour autant, elle a su déterminer les soldes. Donc tout ça est assez étrange. Autre question, comment on a pu laisser cette société, donc soi-disant régulée, hein, qui était inscrite au registre du commerce, tout ça, opérer avec de telles quantités de fonds sans aucune procédure de récupération? Comment on a pu ne pas auditer, ne pas vérifier de manière comptable, de manière légale, tout simplement qu'il n'y avait pas effectivement des wallets multisignatures avec plusieurs personnes dans la société qui étaient capables éventuellement de prendre le relais sur Gerald Cotton en cas de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est complètement absurde. Ensuite, un autre élément troublant, c'est que en 2015, Quadriga CX avait déjà été au cœur d'une polémique et avait déclaré à l'époque pour essayer de rétablir un certain niveau de confiance que tous ces wallets à froid étaient multisignatures et donc qu'elle protégeait jalousement ses fonds. Et en fait, aujourd'hui, on se demande où sont ces wallets multisignatures, puisqu'ils ont interrogé toutes les personnes de la boîte susceptibles d'avoir ces informations et de pouvoir effectuer des transactions, et il n'y a personne. A priori, il n'y a personne. Alors évidemment, c'est pas évident à démontrer qu'on ne sait pas, mais ça pose quand même pas mal de questions sur la réalité déjà des déclarations de Gerald Cotton à l'époque. Autre élément un petit peu troublant, en tout cas, c'est pourquoi la société a déposé cette requête auprès du tribunal de Nouvelle-Écosse et pas en Colombie-Britannique, où ils sont enregistrés. Hein, Colombie-Britannique, c'est Vancouver, tout ça. Et a priori, la société et pas mal la société comptable qui gère les comptes de la boîte, etc., sont toutes enregistrées en Colombie-Britannique. Et pour autant, la demande a été introduite en Nouvelle-Écosse. Alors, est-ce qu'ils ont cherché à profiter de certaines règles plus avantageuses de ce côté-là ? C'est difficile à dire, mais toujours est-il que la juridiction est un peu étrange. Ensuite, autre élément troublant, c'est que Gerald Cotton est donc décédé a priori des complications qui ont fait suite à la maladie de Crohn, mais la maladie de Crohn en elle-même n'est pas une maladie foudroyante. À partir du moment où il a été affecté par cette maladie, il aurait pu se savoir à risque a priori et prendre les mesures qui s'imposaient pour à ce moment-là mettre en place un certain niveau de sécurité et s'assurer que en cas de pépin, on saurait quand même retrouver les fonds. Or, il n'en a rien été et voilà. Et a priori, il s'est passé ce qui s'est passé et on a perdu l'accès aux fonds. En tout cas, c'est ce qui a été avancé. Autre élément qui pose question, pourquoi d'importants transferts en crypto-monnaie semblent avoir eu lieu dans les jours qui ont précédé la mort de Cotton, depuis des comptes qui semblent liés à Quadriga, ou en tout cas à certains clients de Quadriga, vers des comptes d'autres places de marché comme Binance ou Poloniex. Il y a plein d'hypothèses là-dessus, c'est difficile pour le coup, bah évidemment, puisqu'il n'y a aucun document officiel qui lie les comptes blockchain aux comptes officiels ou à la société en elle-même, c'est difficile de dire si effectivement ces mouvements sont louches ou pas, mais toujours est-il que les analystes se posent déjà beaucoup de questions. Et alors, on en vient même à se poser la question de savoir est-ce que la société a jamais eu ces fameux cold wallets ou est-ce qu'elle a juste prétendu en avoir pour gonfler un petit peu ses comptes. Et puis finalement, ça faisait déjà, ça aurait pu faire des mois qu'ils planquaient de l'argent de leurs clients et qu'on sans que personne ne le sache. Donc voilà, tout ça, c'est des questions qui restent en suspens, qui ne sont vraiment que des questions en l'état actuel des choses. Pour l'instant, cette affaire rappelle, donne des petits relents de Mt. Gox, hein, pour ceux qui ont connu, hein, en 2015, Mt. Gox, oui, voilà. À la fois dans l'intérêt que lui portent les médias traditionnels, hein, qui se sont jetés un petit peu là-dessus comme des crevards, mais aussi dans l'incertitude qu'elle laisse planer sur l'avenir des fonds perdus, puisqu'aujourd'hui, on ne sait absolument pas comment on va retrouver ces fonds si effectivement ils ont été complètement perdus. Évidemment, maintenant, les clients lésés se tirent un petit peu dans les pattes parce que certains avaient pris la précaution de ne stocker aucune crypto-monnaie sur la plateforme, ce qui est sage. Encore une fois, c'est ce qu'on conseille à chaque fois. Hein. Une plateforme en ligne, vous laissez pas vos crypto-monnaies. Dès que vous les avez achetées, vous les sortez et vous les remettez juste avant de les revendre. Mais donc, certains n'avaient que des fonds en monnaie fiat et estiment donc devoir être remboursés en priorité dès que la société aura débloqué les fonds qui sont encore coincés chez leurs prestataires. Et puis d'autres estiment que c'est pas juste et que tout le monde devrait être remboursé à la même hauteur et en même temps, qu'il soit en crypto ou enfin qu'il soit perdant en crypto ou en fiat. Bref, c'est pas simple l'histoire. Évidemment, ben vous doutez bien que en parallèle de ça, il y a une class action, donc vous savez ces actions en groupe qui existent en Amérique du Nord, qui est en cours de préparation, qui peut pas être encore enclenchée vu que la société est protégée pour l'instant de ses créditeurs et jusqu'au 7 mars. Mais elle est déjà en cours de préparation. Il y a déjà un certain nombre de cabinets d'avocats qui sont allés recruter des clients lésés pour essayer de monter un dossier pour représenter ses clients. Alors, ce qui est un peu troublant cette fois-ci, c'est que d'habitude, les cabinets d'avocats pour ce genre de class action un petit peu litigieuse, où on sait pas trop où on va, où les bénéfices sont clairement pas garantis, ils se bousculent pas au portillon. Et puis là, ils sont trois, visiblement, à se tirer la bourre pour essayer d'avoir le dossier. Donc voilà, hein, c'est génial. La question que ça pose aussi, c'est que bon, dans les cas de faillite, il y a des règles claires sur le remboursement des créditeurs en monnaie officielle, en monnaie fiat d'une certaine manière, mais il n'y a rien qui concerne le crypto. Et dans les faits, la propriété des cryptos, elle est associée à la connaissance de la clé privée. Donc si Cotton était effectivement le seul à connaître les clés, des wallets et que personne d'autre dans la société ne connaissait ces clés privées, ben a priori, c'était lui le seul propriétaire des fonds. Donc, est-ce qu'une cour de justice pourrait finalement décider que non, il les détenait au compte de quelqu'un d'autre et que finalement, ça doit leur être rendu, etc. Il n'y a aucune règle, aucune jurisprudence clairement établie en la matière. Donc, ça va être difficile pour les tribunaux canadiens de statuer sur la propriété de ces fonds sans créer justement une jurisprudence assez lourde de conséquences. Et donc voilà, il va falloir voir un petit peu comment tout ça se présente. Et alors, pour rajouter un petit peu une petite cerise sur le gâteau, évidemment, vous doutez bien que un malheur n'arrive jamais seul. Il se trouve que le 6 février, certaines personnes, a priori, impliquées dans Cadre ACX ou peut-être dans Ernst & Young, on ne sait pas exactement, ont transmis par erreur, soi-disant, une somme totale de 103 bitcoins, ça représente quand même à peu près 500 000 $ au moment où on enregistre ici, vers un cold wallet qui fait partie justement de ces wallets auxquels ils n'ont plus accès. Et là, pour le coup, forcément, quand on a su ça, y a des analystes qui se sont jetés sur cette info en se disant « Ah, le transfert a été fait il n'y a pas longtemps, on cherche 103 bitcoins en tout, on va aller voir vers quel cold wallet ils ont été transférés. » Et ça leur a permis de trouver 5 comptes bitcoin qui pourraient donc correspondre à certains de ces comptes à froid bloqués. Alors, sur lesquels, bonne nouvelle, il n'y a pas d'opération suspecte sur ces comptes depuis le 8 décembre. Par contre, il y a eu des opérations passées qui peuvent poser question, notamment des grosses opérations vers d'autres places de marché comme Binance, Bitfinex et d'autres. Donc voilà, tout ça pose beaucoup de questions, ça affole un petit peu beaucoup d'analystes qui cherchent à démêler un petit peu le vrai du faux. Cadre ACX fait pas preuve d'une transparence exemplaire en la matière. Vous avez beaucoup de vautours autour, que ce soit les cabinets d'avocats ou Ernst & Young, qui ont des intérêts assez divergents, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le 14 février, le tribunal a retardé la nomination d'un cabinet d'avocats pour représenter les clients lésés dans cette fameuse class action. Donc ça, c'est la dernière info qu'on a. Mais tout ça est assez louche. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que ce que certains médias veulent bien nous expliquer. Donc il va falloir suivre. Ça va être intéressant de voir. C'est pas tellement la somme parce qu'il y a des déjà plus importantes qui ont été perdues, mais c'est surtout le contexte dans lequel ça s'est produit. Évidemment, ça a donné lieu à tout un tas de rumeurs et de théories du complot pas possible sur les réseaux sociaux, sur Reddit, etc. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on sait et on va voir exactement ce qui va ressortir de tout ça. Donc préparez-vous, on en parlera sûrement dans les prochains épisodes du Proof of Cast. Voilà pour ce qui est de Cadre ACX et de ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, deuxième actualité de cette semaine, on va parler de Lightning Torch. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ce machin-là, me direz-vous ? Alors, il se trouve que la communauté Bitcoin se livre en ce moment à une petite expérience qu'ils ont appelée donc la Lightning Torch, ou Torch Lightning, hein, pour une traduction assez simple. L'expérience, elle est donc liée, vous l'aurez compris, à tout le travail qui est en train de se faire sur le réseau Lightning, hein, ce Lightning Network, cette technologie dite de niveau 2 qui doit permettre à Bitcoin d'augmenter considérablement son débit en faisant sortir de la chaîne principale un certain nombre de transactions sans pour autant perdre en sécurité. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents. On vous avait dit d'ailleurs que les premiers réseaux de test avaient été lancés en mars 2018. Et on avait déjà parlé aussi des avancées prometteuses de cette nouvelle technologie qui donne déjà à espérer que certaines limites vont être levées et que la technologie va être rendue encore plus va être encore démocratisée. Maintenant, pour aujourd'hui, là, au jour où je vous parle, la technologie, elle est encore assez primaire et assez compliquée à utiliser. Pour autant, un certain nombre d'utilisateurs se sont lancés dans une espèce de relais de transfert visant à démontrer que la technologie offre déjà un certain nombre d'avantages sur le Bitcoin tout seul. Le principe, c'est que chaque détenteur de la torche est censé transférer les Bitcoins qu'il a reçus plus une petite somme à une personne à qui il fait confiance pour faire la même chose. Et le tout, évidemment, en utilisant le réseau Lightning. Donc, à la base, il y a un utilisateur qui a mis 100 000 Satoshi, ça fait à peu près 3 dollars et des, sur un compte Lightning. Et puis, il les a transférés à quelqu'un qui a rajouté 10 000 Satoshi, qui les a transférés à quelqu'un d'autre, etc. Et tout ce relais-là, évidemment, il est censé s'arrêter à un moment donné, puisqu'à un moment donné, le montant de la torche, donc le montant de ce compte Lightning, enfin de ce volume, aura atteint la limite maximum d'un canal Lightning qui, encore une fois, est aujourd'hui à, il me semble qu'on est sur du 4 390 000 Satoshi, ce qui correspond à peu près à 150 dollars. Donc, ce petit relais, il a été lancé à la base par un utilisateur dont le pseudo est, que je vais retrouver son nom, voilà, elle avait démarré le 19 juillet avec un développeur qui se fait appeler Odlonote, voilà, qui avait transféré 100 000 Satoshi et qui avait demandé un petit peu sur le ton de la blague jusqu'où la cagnotte pourrait monter avant que la chaîne soit rompue. Et il a été un peu pris à son propre jeu, puisque depuis, la torche a survécu, elle a été transférée de nombreuses fois. Aujourd'hui, c'est 198 personnes au moment où j'enregistre cette émission qui ont participé dans plus de 37 pays, j'ai pas trouvé le nombre exact, mais en tout cas au 5 février je crois on était à 37 pays, donc c'est probablement un peu plus maintenant, y compris, enfin parmi ces participants on compte des noms un peu plus connus dans la communauté, comme par exemple Andreas Antonopoulos, hein, l'auteur de Mastering Bitcoin, ou encore Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter et de Square. Donc voilà, il y a des gens assez connus qui ont participé à tout ça, mais surtout tout ça est documenté sur Twitter, donc vous pouvez suivre en live tout ce qui se passe avec un hashtag dédié, et sur techdetorch.online, le site dont on vous met évidemment le lien dans le blog post de l'émission, où vous pouvez voir un petit peu tous les pays par lesquels c'est passé, tous les tweets liés à cette chaîne. C'est assez intéressant. Alors, évidemment, vous pouvez dire, oui, mais c'est une blague, à quoi ça sert exactement? Ben, une des raisons pour lesquelles, enfin, certaines des raisons pour lesquelles cette chaîne s'est poursuivie et allée au-delà de la blagounette, justement, c'est que, en plus d'effectivement faire un petit peu parler, donc un petit peu relation publique pour Lightning, on va dire, ça permet aussi de valider un certain nombre d'éléments, puisque, comme je l'ai dit, la technologie Lightning, elle est encore assez primaire, elle implique une installation assez complexe, la compilation de certains outils, etc. Donc tout ça est pas complètement trivial, et donc toutes les personnes qui participent à cette chaîne doivent le faire aussi, si elles ne l'ont pas déjà fait, elles doivent installer tous ces outils, et donc ça permet de valider aussi toutes les procédures d'installation, de mise en œuvre, de test, etc. Ça permet aussi d'impliquer un nombre d'utilisateurs plus grand, avec un réseau plus large, donc aussi de faire un peu de débugage, donc tout ça c'est quand même pas négligeable, ça rend la technologie au final, enfin ça devrait rendre au final la technologie beaucoup plus robuste, donc tout ça est assez intéressant. Et en plus, évidemment, c'est une magnifique expérience sociale. J'en veux pour preuve, par exemple, le fait que le 31 janvier, la torche a failli être saisie par un des acteurs, enfin un des maillons de la chaîne, qui a dit, finalement, moi j'ai reçu cet argent. Bitcoin, c'est censé être un réseau trustless, donc il y a aucune raison qu'on me transfère cet argent parce qu'on me fait confiance pour le filer à quelqu'un d'autre. Donc, vu que je peux, je vais le faire, je vais le garder. Évidemment, toute la communauté lui est tombée dessus en disant, tu veux vraiment être cette personne-là qui interrompt cette belle expérience et tout ça. Il a même reçu des menaces de mort, le pauvre, c'est dire à quel point la communauté est passionnée. Toujours est-il que la chaîne a continué et que les fonds ont continué à être transférés. J'ai pas réussi à voir le montant exact, je pense qu'on n'a pas encore atteint la limite, mais l'objectif à la fin, c'est que ces fonds soient, enfin quand la limite sera atteinte, les fonds devraient être versés à une œuvre de charité, en l'occurrence probablement à Bitcoin Venezuela, qui s'occupe de faire un peu la pub des crypto-monnaies dans ce pays bien affecté par des politiques monétaires plus que douteuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, affaire à suivre, je vous dis, c'est sur le site techthetorch.online, vous pouvez aller voir un petit peu ce qui s'y passe, l'expérience est intéressante et encore une fois, elle fait parler de Lightning Network. Troisième actualité de cet épisode, je voulais vous reparler vite fait de la bombe de difficulté d'Ethereum, puisque d'après le site BitInfoCharts, encore une fois je vous mets le lien sur le blog post de l'émission, les temps de minage Ethereum ont commencé à augmenter exponentiellement, déjà depuis le 16 décembre environ, mais jusqu'à maintenant on n'en avait pas vraiment vu les effets de manière très proéminente, on va dire. Les retards vraiment notables ont commencé à se manifester depuis la deuxième moitié de janvier, en fait, ce qu'on avait prévu, hein, on se doutait que ça devait arriver. Et donc maintenant, on a dépassé les 20 secondes en moyenne, contre 15 secondes environ en temps normal pour valider un bloc. Alors pour rappel, hein, la bombe de difficulté, c'est un mécanisme algorithmique qui a été intégré dans le code de tous les clients Ethereum, de tous les logiciels qui implémentent des nœuds Ethereum, conçus pour faire artificiellement augmenter les temps de minage, passer un certain bloc. Et l'objectif de ce mécanisme, c'est d'obliger le réseau, donc tous les nœuds qui constituent le réseau, à faire régulièrement des mises à jour du logiciel, donc à accepter des hard forks réguliers, soit pour faire évoluer la technologie du réseau, soit pour repousser cette bombe de difficulté. Et c'était justement un des rôles du hard fork Constantinople, qui était censé, donc entre autres choses, repousser cette bombe de difficulté d'un an et demi à la base, en octobre 2018, et puis qui avait été finalement repoussé début janvier 2019. Or, il se trouve que suite à plusieurs bugs et failles de sécurité, ces hard forks ont été successivement reportés. Le dernier report date de mi-janvier, on en avait parlé dans le dernier épisode, parce que un bug potentiellement assez dangereux avait été identifié dans une des améliorations qui devait être déployée avec le hard fork, c'est-à-dire le IP 1283, si vous vous souvenez bien. Et donc suite à ça, la décision avait été prise de supprimer cette amélioration du hard fork, mais ça demandait du coup de prendre quelques semaines pour tout retester, pour être sûr que en supprimant cette EIP, on n'allait pas introduire un effet de bord et donc de nouveaux bugs. Donc avec tout ça, la prochaine release a été décalée encore à fin février. En tout cas, c'est la date qu'on estime puisque le numéro de bloc qui a été déterminé, c'est le bloc 7 280 000, et on estime que ça devrait être pour fin février. Alors comme je le disais la dernière fois, les estimations sont compliquées par le fait de cette bombe de difficulté, mais là a priori le prochain saut de difficulté devrait se produire après fin février, donc les estimations commencent à se préciser à nouveau. Donc, la bombe, elle a été repoussée, deux fois déjà, en juin 2017 et en octobre 2017. Donc, a priori, le prochain délai, ce sera pour fin février. Et évidemment, vous pouvez suivre tout ça sur les sites qu'on vous a mis en lien sur le blog post, qui vous permettent de voir en temps réel comment ça se passe, comment ça se profile, et ensuite à quelle vitesse la chaîne se reconstitue. Ce qui est intéressant quand même avec toutes ces discussions autour de cette bombe de difficulté, c'est qu'on commence à voir apparaître certaines protestations, y compris de certains développeurs assez réputés dans la communauté, comme par exemple AfriShodden, qui commence à se plaindre de cette bombe, puisqu'à la base, elle avait été conçue avant tout pour assurer une transition un peu homogène vers Ethereum 2.0 et notamment le Proof of Stake. Mais voilà, comme le souligne très justement AfriShodden, il est impossible, il est absolument improbable que le Proof of Stake soit réalisé dans l'année qui vient, donc dans les 12 mois, dans la période de 12 mois pour laquelle on a repoussé cette bombe de difficulté. Donc ça veut dire qu'on devra encore une fois faire un hard fork intermédiaire pour la repousser, et donc lui il milite en gros pour que cette bombe de difficulté elle soit repoussée indéfiniment. Mais d'autres disent oui, mais attention, si on fait ça, on enlève complètement l'incentive pour les nœuds de faire des mises à jour, même quand on fait des hard forks qui sont pas forcément liés au Proof of Stake. Donc voilà, il y a les débats qu'on continue à se développer autour de ça. Donc au final, comme je le disais, fin février, attendez-vous à ce Constantinople diminué puisqu'on aura enlevé le IP 1283. D'ailleurs, de manière tout à fait formelle, Constantinople n'est plus. En tout cas, pour l'instant, on a vu qu'on a enlevé un morceau de Constantinople, c'est plus vraiment Constantinople. Il s'appelle Petersburg. Donc le nouveau nom de ce hard fork qui sera libéré, enfin qui sera activé fin février, c'est Petersburg. Et puis le Constantinople, ce sera quand on aura remis un 1283 un petit peu plus propre, dans lequel il n'y aura pas le bug qui a été révélé début janvier. Bref, encore une fois, on vous a mis les liens pour observer tout ça et voir comment ça se passe. N'hésitez pas à vous tenir au courant si Ethereum vous intéresse. On va maintenant parler de sécurité, on va parler de malware notamment, puisqu'il y a eu deux actualités dans les dernières semaines qui avaient trait à des malwares qui veulent vous piquer vos cryptos sous. Et c'est assez intéressant et assez important à vous rappeler parce qu'il y a derrière ça des consignes élémentaires de sécurité qu'il faut toujours garder à l'esprit. Donc si vous vous souvenez, dans notre épisode dédié à la conférence DEFCON, qui remonte à octobre dernier, on vous avait parlé du projet de MetaMask de sortir un wallet software mobile. Donc MetaMask, hein, si vous vous souvenez, c'est déjà le wallet software le plus populaire dans les extensions pour les browsers. Ça permet de transformer la plupart des browsers modernes, que ce soit Chrome, Firefox, Opera ou Edge, en DApp browser, c'est-à-dire en navigateur capable d'interagir avec des applications décentralisées sur Ethereum. Et même s'il existe déjà quelques wallets mobile intéressant sur iOS comme sur Android, la perspective d'un wallet mobile qui est intégré de manière fluide avec celui qu'on utilise déjà dans le browser, ça crée déjà une certaine impatience. Et bien sûr, comme toujours, des petits malins ont cherché à exploiter cette impatience puisqu'ils ont publié sur le Play Store Android une application qui prétendait être ce wallet mobile promis par MetaMask mais pas encore sorti. En fait, cette application, c'était une application qui permettait d'intercepter toutes les adresses Ethereum dans le presse-papier pour les remplacer par l'adresse d'un attaquant. Donc imaginez, vous voulez transférer un montant en Ether à une certaine adresse. Évidemment, vous n'allez pas taper cette adresse à la main. Vous allez la copier dans un email ou par un autre moyen. Elle va se mettre dans le presse-papier du téléphone et ensuite vous allez la coller dans le champ destinataire. Et c'est là où en fait intervenait cette application qui arrivait à remplacer l'adresse de destinataire que vous aviez copiée par l'adresse d'un attaquant. Donc vous pensiez envoyer vos fonds à quelqu'un dont vous aviez copié-collé l'adresse, mais si vous vérifiez pas que l'adresse collée était bien l'adresse copiée, et ben vous envoyez vos fonds ailleurs. C'est la société de sécurité ISET, ESET, qui a révélé la supercherie le 8 février, après quoi, évidemment, Google a dépublié immédiatement l'application, voilà. Donc du coup maintenant on peut plus l'installer. Malheureusement, je pense que pour ceux qui l'ont déjà installé, ben, elle est toujours là et j'espère que vous ne l'avez pas fait. Et puis si vous l'avez fait, il faut la désinstaller tout de suite. Évidemment, dans la foulée, l'équipe de MetaMask, pas contente, n'a pu que regretter que Google ne procède pas à un contrôle plus poussé des trademarks, surtout que c'est pas la première fois que des tentatives de phishing similaires ont lieu à l'encontre de MetaMask sur le Play Store. Hein, il y avait déjà eu des affaires similaires auparavant. Donc pourquoi Google ne met pas en place des genres de filtres pour dire ok, si quelqu'un prétend publier une application MetaMask, on va la vérifier deux fois et humainement pour être sûr qu'il n'y a pas un problème de sécurité là derrière. Donc visiblement ça n'est toujours pas le cas. Maintenant, quand on est développeur mobile, on se plaint souvent des contrôles opérés par Apple avant la publication d'une app sur l'App Store, qui sont un petit peu plus, qui prennent un peu plus de temps que sur le Play Store. Maintenant, ce genre de contrôle plus strict aurait été salvateur dans le cas qui nous occupe. Donc, par rapport à ça, je vous le disais, hein, il y a des consignes élémentaires de sécurité. Surtout, avant d'installer ce genre d'application, vérifiez bien que le site officiel qui est mentionné dans la description est correct et qu'il mentionne l'application ou sa mise à jour, ce qui n'était clairement pas le cas ici. Et surtout, quand vous envoyez des transactions, vérifiez plusieurs fois l'adresse du destinataire ainsi que le montant de la transaction pour être sûr que c'est bien ce que vous avez copié à la base, que vous avez récupéré. Et d'ailleurs, c'est pour ça si vous cherchez à le savoir, que la plupart des wallets software intègrent aussi ce qu'ils appellent une image générée ou une version visuelle des adresses, c'est-à-dire qu'ils génèrent une espèce de petite icône abstrait à partir d'une adresse, et il suffit qu'une adresse change même un tout petit peu pour que l'image soit complètement différente. Donc ça permet de se rendre compte aussi visuellement qu'une adresse n'est pas la même, et pas juste en lisant une longue chaîne de caractères ou de chiffres. Donc voilà, prenez ces mesures-là, faites attention quand vous installez ces genres d'applications. Et tiens, puisqu'on parlait d'Apple et de leur contrôle, il y a un autre malware qui là pour le coup a touché Apple, pas sur les mobiles mais plus sur le desktop, donc sur les Macs, sur macOS. Ici c'est la société Palo Alto Networks qui a publié un rapport le 31 janvier pour rapporter l'existence d'un malware qu'ils ont appelé eux-mêmes Cookie Miner. Alors ce malware, il est un petit peu violent parce que donc il vise les ordinateurs Mac, dont c'est pas une cible dont on a l'habitude pour du malware. D'habitude on entend plutôt parler de ça sur Windows, mais comme quoi ça existe aussi. Et ce qu'il fait entre autres, c'est qu'il intercepte, il est capable d'intercepter les cookies de browser sauvegardés par des places de marché comme Binance, Coinbase, Poloniex, Bittrex ou Bitstamp dans la base sécurisée du Mac. Donc il se met au milieu, il chope le cookie et ça, il l'utilise en combinaison avec d'autres informations qu'il essaie d'intercepter, comme par exemple les usernames et mots de passe sur ces places de marché, des informations de carte de crédit, des clés de wallet en crypto-monnaie, enfin bref, il essaye de pomper tout ce qu'il peut pomper et d'utiliser toutes ces informations combinées derrière pour avoir accès à toutes vos crypto-monnaies. En plus de ça, en plus de tous ces vols d'informations, il modifie aussi la configuration du système pour miner de la crypto-monnaie. Alors ici, c'est pas du Monero, hein, comme on en avait parlé il y a quelques mois. C'est une obscure crypto-monnaie japonaise qui s'appelle le Koto. Évidemment, tout ce minage se fait complètement à l'insu de l'utilisateur qui voit juste sa machine qui se met à chauffer pour rien. Donc, moralité, la mesure de sécurité, elle est assez simple. N'installez pas n'importe quoi sur votre Mac. Assurez-vous que ça vienne d'une source en laquelle vous avez confiance. Et avant de taper votre mot de passe administrateur pour accepter une installation, posez-vous des questions. Donc voilà pour ce qui est des malwares. Et alors, la dernière actualité sur laquelle je voulais revenir cette fois-ci, c'était la news qui concerne le groupe Carrefour. Alors Carrefour, vous le connaissez, hein, cette chaîne de magasins, de grands magasins de tous les jours, hein, on va dire. Chaîne française à la base, mais qui a aussi évidemment des filiales un peu partout dans le monde, y compris en Belgique. Et si vous vous souvenez, j'avais déjà publié un article sur le blog de Chainskills en mars 2018 par rapport à une première initiative qui avait été lancée justement dans la partie française de Carrefour pour tracer la filière de certains poulets labellisés sur une blockchain. Alors à l'époque, j'avais un peu crié au scandale, à la fausse blockchain, etc., puisque il avait été déterminé, notamment grâce au professionnalisme journalistique de Numérama à l'époque, qu'ils utilisaient Ethereum mais de manière privée, donc pas du tout une blockchain à proprement en parler, mais une espèce de simili blockchain, hein, ce qu'on peut clairement assimiler à du blockchain washing. Donc forcément, quand la news est arrivée qu'ils allaient lancer la même chose en Belgique, ça a attiré mon attention, ça a attiré aussi l'attention d'autres journalistes, notamment les journalistes de Trends Tendance qui ont publié un article qui s'appelle « Pourquoi Carrefour mis sur la blockchain ?» et pour lequel ils ont interviewé votre serviteur pour essayer d'en savoir un peu plus. Alors évidemment, ben, vous me connaissez, hein, j'ai pas mâché mes mots, j'ai clairement expliqué aux journalistes ce qu'il en était et les limitations de ce système. Alors depuis le lancement de l'initiative en France, il y avait eu aussi pas mal d'articles qui étaient revenus sur un possible partenariat entre Carrefour et IBM via un certain consortium pour l'utilisation de la technologie Hyperledger. Là ici, il s'avère que suite aux interrogations justement du journaliste de Trends Tendance, Carrefour a expliqué que en Belgique ils utilisaient encore et toujours Ethereum, mais en version privée, même si c'était effectivement en discussion avec IBM. Ça n'en reste pas moins une blockchain privée et donc une blockchain qui n'en est pas vraiment une. Ici, en Belgique, Carrefour s'est associé à un organisme de certification et d'accréditation qui s'appelle Vinsot pour tracer les produits labellisés Port d'Antan. Voilà, c'est leur petit label à eux. Et évidemment, pour faire tout ça sur une blockchain. Le petit gimmick qui à chaque fois me fait beaucoup rire et qui avait l'air de pas mal passionner aussi les journalistes, c'était le fameux QR code qui est apposé sur les produits de la filière et qui permet en scannant le QR code d'accéder à l'application dans laquelle on a tout un tas d'informations super utiles sur la provenance, l'origine, enfin le chemin qu'a pris le produit, etc., etc. Donc ça donne en plus une belle impression de modernité au consommateur hein, qui peut scanner et avoir l'impression d'être dans le monde 2.0, tout ça, même si en fait ça sert absolument à rien, hein, puisque je suis sûr qu'ils arriveraient à peu près à faire la même chose avec le code barre en une dimension qui est déjà sur le produit, pas besoin d'en rajouter un deuxième, mais bon, bref, toujours est-il que ça fait bien niveau marketing. On rappelle au passage que les informations qui sont mises à disposition dans cette fameuse blockchain, elles existaient déjà dans des bases de données classiques, hein, de l'aveu même de Carrefour. Donc elles auraient tout à fait pu être mises à disposition des consommateurs il y a bien longtemps déjà, hein, avec un QR code ou sans QR code. Et en plus, ici, dans le cas de cette blockchain, Carrefour est le seul maître de la nature des informations qu'il met à disposition. C'est pas parce que c'est mis dans une blockchain que c'est forcément complètement transparent, puisqu'ils mettent ce qu'ils veulent dedans, donc et vous ne pouvez avoir accès que à ce qu'ils mettent dedans. Ici, ils ont, comme je disais, choisi d'utiliser une blockchain privée pour stocker ces informations. Donc, vous avez un petit groupe d'organisations, d'acteurs qui sont en plus tous liés contractuellement, qui ont clairement la main mise sur le registre, qui peuvent unilatéralement modifier l'histoire ou introduire des informations fausses. Et le flou est entretenu sur la technologie utilisée. Comme je disais, on ne sait pas exactement est-ce que c'est de l'Hyperledger, est-ce que c'est de l'Ethereum privé. Dans les deux cas, Carrefour n'a pas nié le fait que seul Vinsot, donc le cabinet d'expertise, effectuait pour l'instant toutes les écritures dans le registre. Tiens, c'est bizarre. En attendant que tous les acteurs de la chaîne soient prêts à le faire eux-mêmes, hein, en disant c'est temporaire, vous inquiétez pas, un jour chacun y mettra ses propres informations. N'empêche que le simple fait que ce soit possible, ça démontre que la blockchain peut être centralisée. Et donc si elle peut l'être, elle le sera dès que ce sera intéressant pour les acteurs impliqués. Mais pour autant, hein, quand le journaliste leur a mis ça, leur a mis un petit peu le nez dedans, ils ont continué à se défendre en disant non, il y a aucune mainmise centralisée. Il y a un seul acteur qui écrit tout dedans, mais il n'y a pas de centralisation. Enfin, voilà, encore une fois, la cohérence du marketeur, c'est magnifique. Donc voilà, c'est évidemment toujours autant du foutage de gueule de la part de Carrefour, hein, qui, on le rappelle, au passage, a fermé de nombreux magasins et licencié de nombreux employés ces dernières années, faute de moyens, et qui gaspille maintenant le peu de moyens qui lui reste dans ce genre de projet sans lendemain, mais qui vont affoler la presse et générer un petit peu de relations publiques sympathiques. Ça m'agace toujours autant, mais bon, voilà, de temps en temps, il faut en parler. Petite piqûre de rappel, on n'est pas dupes, mes amis de chez Carrefour, on voit très bien où vous voulez en venir. Voilà pour l'actualité, je vais juste vous faire référence à un petit article, je ne vais pas repasser en détail dessus, mais il y a eu un article assez intéressant qui a été publié sur CoinDesk concernant tous les efforts qui sont en cours pour augmenter la scalabilité d'Ethereum. Je me souviens que je crois que c'était juste avant Noël, on nous avait posé la question de savoir quels étaient les projets les plus excitants dans le monde d'Ethereum par exemple. Et ben là, il y a un petit inventaire assez sympathique d'initiatives prometteuses qui sort un petit peu des clous des solutions de niveau 1 qu'on avait déjà évoquées. Donc si ça vous intéresse l'avenir d'Ethereum, je vous pointe vers cet article duquel on vous met le lien dans le blog post de l'émission. Et voilà qui termine notre revue d'actualité. Alors comme d'habitude, hein, je vous rappelle au passage que si vous avez des demandes d'informations, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que je vous explique, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le commentaire de l'émission sur le blog, sur proofofcast.com ou dans le compte Twitter, sur le compte Twitter ou le compte Facebook, qui sont tous les deux proofofcast d'ailleurs, de l'émission, sur lequel vous pouvez nous laisser vos commentaires. Si vous appréciez l'émission, je vous invite fortement et je vous encourage allez nous laisser des petites étoiles sympathiques, notamment sur iTunes, pour nous aider à répandre la bonne nouvelle du Proof of Cast au public le plus large possible. Je vous rappelle aussi, comme on l'avait expliqué dans le dernier épisode, dans l'épisode 20, qu'on a pour projet de modifier légèrement la formule du Proof of Cast en introduisant ce qu'on a appelé les dossiers du Proof of Cast, c'est-à-dire des dossiers thématiques qui reviennent plus en détail sur un élément de l'écosystème. Et on a besoin de votre aide pour essayer de déterminer quels seront les sujets qui vous intéressent le plus à aborder. Et pour ça, on a mis au point un petit sondage qui est disponible sur dossier.proofofcast.com, dossier au singulier ou au pluriel, ça n'a pas d'importance, auquel vous pouvez répondre. Alors, soit en choisissant parmi les réponses proposées, vous pouvez en sélectionner plusieurs pour chaque catégorie de thèmes, soit en proposant vos propres thèmes. Et à la fin, il y a même un champ libre dans lequel vous pouvez vous lâcher. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis. On a déjà une petite douzaine de réponses, mais plus on en aura et plus ça nous aiguillera sur les sujets qu'on doit aborder en premier pour vous expliquer tout ça. Pour ce qui est de nos activités à nous, alors bien sûr, vous pouvez retrouver Plume sur son blog plume.net. Vous pouvez me retrouver sur chainskills.com, sur Twitter, sur le compte srbogast, en plus du compte chainskills, évidemment. Vous pouvez aussi me retrouver dans le podcast Les Technos, sur lestechnos.be. Et puis, je rappelle au passage à tous les développeurs qui voudraient apprendre à développer des smart contracts sur la blockchain Ethereum, qu'on a toujours notre cours en ligne sur la plateforme Udemy, auquel vous pouvez accéder pour la modique somme de 10€ avec le code PROOFOFCAST. Sur ces bonnes paroles, le prochain épisode du PROOFOFCAST sera diffusé le 2 mars, ça sera l'épisode 22. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt, au revoir.